Vous êtes sur RTL.
Vous écoutez RTL, il est 12h30.
RTL, le journal inattendu.
Je dirais d'abord que c'est une fille d'un très grand caractère, d'un très grand courage physique et moral.
Après 70 ans d'existence, c'est la fin du régime de sécurité sociale des étudiants.
Elle a dû entendre 100 fois, ah c'est pas facile avec votre frère, votre mère, etc.
Et je vous rassure, je ne suis pas dans le coma, nous sommes en direct.
Je lui ai transmis l'idée qu'on sache sourire même lorsque ça ne va pas.
Kimberly Vlaminck, c'est son nom, s'est rendu dimanche dans la boutique d'un tatoueur.
Il est au fond quelqu'un qui sourit à la vie, il suffit de la regarder.
Il explique au journal Headlast News qu'elle s'est endormie pendant la séance.
D'ailleurs, tout le monde dit, elle rit tout le temps.
C'est à vous, là.
12h30, 13h30.
Le journal inattendu de Marina Carrère d'Encausse avec Vincent Parisot sur RTL.
Bonjour Marina Carrère d'Encausse.
Bonjour.
Effectivement, ça risque d'être une émission souriante. Merci en tout cas d'être pour une heure la rédactrice en chef de ce journal inattendu. Alors c'est peut-être pour vous une première à la radio, je ne sais pas, mais pas à la télé, puisque depuis près de 20 ans, vous présentez le magazine de la santé. On vous voit également dans Le Monde en Face le mardi soir sur France 5. Donc vous êtes journaliste, vous êtes romancière, on y viendra.
Oui.
Mais vous êtes avant tout médecin. Et pour les téléspectateurs, un gage de rigueur, ce qui n'empêche pas un sourire radieux et même une petite spécialité dans les fous rires, comme on l'a entendu et comme le soulignait votre maman à l'instant, notamment dans le cadre de ce duo que vous formiez avec notre ami Michel Simès. Vous êtes également marraine de la Fondation pour la Recherche Médicale et de cela on va en parler à quelques jours d'une grande mobilisation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Votre invité après 13h sera d'ailleurs le professeur Marie Sarrazin, spécialiste en neurologie de la mémoire et du langage. Dans un instant, ce sera les infos que vous pourrez commenter, avec notamment un reportage sur un jeune phénomène de la natation handisport qui s'appelle Théo Curin et que vous connaissez bien puisque vous l'accueillerez très prochainement dans votre magazine de la santé. Mais tout de suite, et je sais que c'est pas le plus facile, en général pour nos invités, en particulier pour vous, il faut vous tirer le portrait. Nous parler de vous, Marina Carrère d'Encausse.
Je déteste, mais je vais faire quand même. Donc j'ai essayé de faire un « je suis, je ne suis pas » pour me portraitiser un petit peu.
Oui.
Donc je suis névrosée, angoissée, cancérophobe, naïve, entière, timide, une mère collante, tétanisée par la violence, intolérante à toute forme de discrimination et à l'écoute. En gros, c'est ce que j'ai trouvé dans ce que j'étais. Oui. Ce que je ne suis pas, je crois, hein. Je ne suis pas indifférente, je ne suis pas égoïste, je ne suis pas tolérante à la bêtise et à la méchanceté, et je ne suis pas calme face à l'injustice. Avec tout ça, je dirais que je suis amoureuse des faiblesses, de la fragilité, de la générosité, et très intéressée par tous ceux qui se reconstruisent. Ce portrait explique mes choix d'études de médecine, c'était une évidence, professionnelle parce que écouter aussi bien des patients ou leur transmettre des informations ou écouter les témoins dans les émissions sociétales, c'est vraiment ce que je sais faire et ce que je pense apporter. Également dans mes engagements, aussi bien dans les associations, évidemment à la FRM pour la recherche médicale, mais également dans les différentes associations pour lesquelles je travaille, qui sont en général dans les luttes contre les discriminations et la différence. Et puis également dans mes loisirs, dans mes romans, parce que je crois que dans mes romans, j'essaye de redonner de la dignité à des personnes cabossées par la vie.
Eh bien, on va aborder voilà. Tout ça. Pendant une heure, jusqu'à 13h30, le journal inattendu de Marina Carrère d'Encausse qui commence tout de suite avec les infos. Une actualité dominée par un arrêté et une consultation annoncée sur la distance entre les cultures sous pesticides et les habitations. 5 à 10 mètres, précise l'arrêté, ce qui provoque de vives réactions. Vous entendrez la colère de Yann Arthus-Bertrand. La République En Marche réunie en université de rentrée à Bordeaux. Objectif, éviter les fait Villani et donc se mettre en ordre. Deux marches pour les municipales. La réplique de la fille de Brigitte Macron après les attaques sexistes venues du Brésil à l'égard de sa mère. Elle lance le hashtag « balance ton miso ». Des maires de communes de Seine-Saint-Denis mobilisés ce matin contre le manque de moyens accordés par l'État à ce département. Ils dénoncent une rupture d'égalité. Le retour des gilets jaunes, peut-être. En tout cas, la ville de Montpellier a été désignée capitale nationale de la mobilisation pour aujourd'hui. Le football avec ce soir France-Albanie en éliminatoire de l'Euro. À l'US Open, une finale Nadal Medvedev. Et donc, dans le journal inattendu, le reportage inattendu de Marina Carrère d'Ancos, elle l'a demandé, ce coup de projecteur sur le jeune champion de paranatation, Théo Curin. Valérie Quintin, qu'est-ce que ça donne niveau ciel?
Ça donne qu'on a un petit peu plus froid quand même depuis quelques jours. Ça va perdurer hein, pratiquement toute la semaine prochaine. En attendant, aujourd'hui, les températures ne vont pas vraiment décoller. Et dans le même temps, on a une dégradation qui traverse le pays du nord-ouest vers l'est et le sud-est. Donc elle prend son temps. En plus, elle n'est pas très très rapide. Elle apporte un peu d'eau, pas suffisamment. Évidemment, pour l'instant, il pleut surtout en Bourgogne ou encore en Lorraine. Des pluies qui vont aller vers l'est au fil des heures. Ça tournera à l'orage en montagne. À l'arrière, les éclaircies reviendront. Et on aura du soleil près de la Méditerranée, mais avec beaucoup de vent, puisque le Mistral et la Tramontane vont aussi continuer de souffler assez fort. Les températures, un petit 18 à Rouen et à Lille cet après-midi, 20 degrés sur Paris, 21 à Bourges et Clermont-Ferrand, 23 pour Bordeaux, 27 à Marseille, maximum pour Toulon avec 29 degrés.
Merci Valérie, vous n'avez jamais présenté la météo, Marina?
Pas jusqu'à présent.
Eh bien, ça sera une première dans une petite demi-heure.
Le journal inattendu sur RTL.
Le mois dernier, Emmanuel Macron avait assuré vouloir prendre en compte la question sanitaire de l'usage des pesticides en établissant une distance suffisante avec les habitations. Il avait alors réagi à un arrêté municipal d'un maire d'Ille-et-Vilaine qui l'avait fixé, cette distance, à au moins 150 mètres. Et pourtant, eh bien voilà, le gouvernement veut instaurer une distance bien plus faible entre les cultures sous pesticides et les maisons ou les écoles. 5 mètres pour les cultures basses, 10 mètres pour les cultures hautes. Ce texte devrait entrer en vigueur en janvier prochain. Il va tout de même être soumis à une consultation de 3 semaines qui va débuter donc sur Internet, sur les sites des ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Écologie à partir de lundi. Mais d'ores et déjà, pour les défenseurs de l'environnement, 5 à 10 mètres, ça ressemble à une blague. Écoutez ce qu'en dit Yann Asturius-Bertrand pour RTL.
C'est ridicule parce que la distance, elle est de 5 mètres à 10 mètres. Alors que les associations demandent au moins 150 mètres. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. C'est fou cette espèce de déni dans lequel on vit. Vous savez, ça me fait penser un peu à l'amiante. Il a fallu 50 ans pour s'apercevoir que l'amiante était dangereux. Il y a quand même 50 paysans aujourd'hui dont le Parkinson a été reconnu comme maladie professionnelle. Ça veut dire quelque chose. Il y a plus en plus de maladies, de troubles cognitifs, de cancers, de troubles de fertilité. On prétend pas que les pesticides sont l'unique cause, mais ils jouent un rôle, petit, grand, moyen, ça reste à déterminer, mais nous en savons assez pour agir. Je ne comprends pas que les lobbies agricoles soient plus importants que la santé des Français. Ça, je n'en reviens pas. Là, je pense que vraiment, le gouvernement ne joue pas son rôle de protection de la santé des citoyens.
Voilà, Yann Arthus-Bertrand avec Agathe Landais. Yann Arthus-Bertrand que vous retrouverez tous les dimanches soirs sur RTL pour On refait la planète à 19h05. Marina Carrère d'Ancos, il parle d'un déni sur les pesticides par rapport aux effets sur la santé. Vous êtes d'accord?
Je pense qu'il pose effectivement les bonnes questions. Il le fait bien parce qu'effectivement, en évoquant le problème de l'amiante, je pense que là, il y a un principe de précaution qui doit absolument s'installer. On a mis longtemps à prouver que les pesticides étaient avec certitude dangereux pour ceux qui les utilisaient directement, ça on le sait maintenant parfaitement. On ne sait pas encore exactement quels sont les effets, quel est le lien de cause à effet exactement et à quelle dose sur les populations, mais très clairement, puisqu'il y a suffisamment de doutes, il y a suffisamment d'affaires, effectivement de cancers, de naissances d'enfants mal formés, il y a suffisamment de choses pour qu'il y ait des doutes qui imposent un principe de précaution. Et voilà, je pense qu'il faut le faire et après... Au mieux, on aura une bonne nouvelle, mais on aura protégé les populations civiles.
Un mot de politique avec l'université de rentrée de la République en marche, baptisée Campus des Territoires. Ça se passe à Bordeaux, 3000 personnes attendues. Évidemment, Édouard Philippe, évidemment, la plupart des ministres et responsables du mouvement. L'objectif, c'est d'éviter que le bras de fer parisien Griveaux-Villani ne déborde dans la perspective des municipales. C'est le mot d'ordre tout à l'heure du délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini.
Nous devons ouvrir ensemble l'acte 2 de La République En Marche. Garder des grands marqueurs, la double appartenance, l'adhésion gratuite, parce que je ne veux aucune barrière à l'entrée, mais faire ce grand acte de décentralisation de notre mouvement à travers la rénovation des statuts, mettre plus de démocratie locale, rendre nos instances plus représentatives de celles et ceux qui font vivre le mouvement. Voilà les grands axes de la réforme de nos statuts. Et ils nous permettront de donner une assise à notre mouvement. Ils permettront de donner plus de place à nos adhérents pour participer à gagner la bataille des idées.
Voilà, une réforme des statuts en préparation à La République en marche, Stanislas Guérini, au micro RTL de William Galibert. Et puis, je le disais dans les titres, la fille de Brigitte Macron défend sa mère et l'honneur des femmes sur Twitter. Tiphaine Auzière a publié une vidéo de soutien après les insultes proférées il y a quelques jours par le ministre brésilien de l'économie. Le hashtag balance ton miso en référence à balance ton porc est ce matin le mot d'ordre le plus utilisé sur le réseau social en France. Juste avant de marquer une pause, Marina Carrère d'Encausse, comment vous avez vécu, ressenti ces attaques venues du Brésil sur le physique?
J'ai été ulcérée. Ouais. Mais ulcérée parce que c'est très blessant, c'est-à-dire qu'on s'attaque à cette femme à cause de sa différence d'âge avec Emmanuel Macron, à cause de son physique. Honnêtement, je connais peu de femmes qui aient autant d'élégance intellectuelle, affective, qui aient autant de classe. Et pour l'avoir rencontrée à l'Élysée, c'est une femme extrêmement belle, mais vraiment belle, qui est en vrai encore plus belle qu'à l'écran, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Et je trouve que c'est c'est non seulement misogyne et absolument abject et d'une grossièreté inqualifiable, mais je ne supporte pas ces attaques qui blessent les gens. Et c'est vraiment, c'est même pas toutes les femmes qui l'a attaquée, c'est Brigitte Macron. Je voudrais qu'on défende cette femme qui est une femme extrêmement élégante.
C'est dit, on marque une pause. Évidemment, dans votre journal inattendu, Marina Carrère d'Encausse, dans un instant, on évoque les maires de communes de cet lundi qui attaquent l'État.
Le journal inattendu sur RTL, avec Marina Carrère d'Encausse et Vincent Parisot.
Et dans le journal, dans l'actualité, il y a ces cinq maires de Seine-Saint-Denis qui ont tenu ce matin une conférence de presse devant la préfecture de Bobigny. Ce département détient le record de France de la criminalité et les élus dénoncent le manque de moyens accordés en matière de sécurité, de justice, d'éducation. Ils ont donc, Vincent Serrano, décidé d'attaquer l'État pour rupture d'égalité.
La Seine-Saint-Denis contribue, elle le peut, à sauver la France.
Oui, absolument. À l'aide d'un recours signé symboliquement en présence de leur avocat, recours qu'ils adresseront lundi au Premier ministre. Lamine Thiré, Sylvine Thomassin, la maire de Bondy, n'en peut plus de courir après l'égalité dans un département du 93, dit-elle, abandonné depuis longtemps.
Fonds interministériel de prévention de la délinquance, cette année, comme l'année dernière, Bondy, zéro pour l'éducation. On a calculé, nous, que sur une scolarité en primaire, nos enfants perdent une année de scolarité. Voilà comment sont traités les enfants de ce département.
Plusieurs dizaines d'habitants font face à ces cinq maires qu'ils comprennent. Didier, par exemple, évoque avec eux rapidement l'engorgement des tribunaux de Seine-Saint-Denis qu'il a vécu de plein fouet pendant sa procédure de divorce.
Pourquoi j'ai pas les mêmes délais de traitement au niveau du tribunal? Plus d'un an pour se voir octroyer une pension pour pouvoir survivre. Donc comment on fait pour vivre? Pourquoi on n'a pas le droit de vivre dignement comme les autres?
Il faut soutenir ces maires, c'est ce que Marie-France a écrit sur sa banderole.
On téléphone à la police, bah non, on peut pas se déplacer, il n'y a pas de voiture. Ou les voitures sont en panne, ou qu'à Paris, j'avais pas ça quand j'habitais dans Paris. C'est plus la même vie alors qu'on est à 2 km de distance. Il y a vraiment une frontière.
Une frontière que les cinq maires espèrent abattre rapidement. Ils demandent à être reçus par le Premier ministre dans les deux mois, sous peine de saisir la justice administrative.
Vincent Serrano à Bobigny. Avant de parler sport, je rappelle que les avions d'Aigle Azur ne décollent plus. La compagnie spécialisée sur le Maghreb et l'Afrique est en cessation d'activité. Tous les vols, évidemment, sont annulés. Des milliers de passagers sont bloqués. Seule solution, trouver un billet avec d'autres transporteurs, notamment Air France, Transavia et Vueling, qui proposent des tarifs spéciaux. Mais attention, on ne les trouve pas, ces billets, sur Internet. Ils doivent être achetés par téléphone ou au comptoir. Du sport, avec l'équipe de France de foot qui affronte ce soir l'Albanie en éliminatoire de l'Euro, avec évidemment l'intention de faire oublier la défaite subie par les Bleus 2-0 en Turquie au mois de juin. France-Albanie, 20h45, le club Lisa avec Bichente Lizarazu à partir de 20h. Et dès 18h30, vous referez le match. Et puis le tennis, je sais que ça vous intéresse, Marina.
Oui.
Nadal s'est qualifié pour la finale face à l'Italien Berrettini. Là, je parle de l'US Open. Il affrontera le Russe Medvedev. La finale dames sera ce soir Serena Williams face à la Canadienne Andreescu. C'est vrai que quand vous étiez jeune, votre rêve, c'était d'être joueuse professionnelle, de jouer à Roland-Garros.
Ouais, c'était d'être Chris Evert.
C'est vrai?
Oui, absolument. Donc j'ai dit
vous
à
aviez la blondeur de Chris Evert.
J'avais dit à 15 ans à ma mère, je vais arrêter mes études pour faire du tennis.
Elle a dû dire bien sûr, ma fille.
Elle m'a dit bien sûr, ma chérie, tu passes ton bac, tu as un diplôme bac plus 8 et après tu reviens m'en parler.
Voilà, c'est ça.
Ça s'est arrêté là. Mais le tennis n'y a rien perdu, je vous rassure.
Non, mais mais peut-être, sait-on jamais. En tout cas, la télévision, la médecine y ont sans doute gagné. Tiens, c'est l'heure du reportage inattendu.
Le reportage inattendu.
C'est le vôtre, Marina Carrère d'Encausse, celui que vous avez demandé à la rédaction d'RTL sur le jeune champion de paranatation, Théo Curin. Alors, je vous propose de l'écouter tout de suite. Sophie Orange, vous l'avez rencontré. Alors, racontez-nous, Sophie.
Alors vous savez quoi, Marina, Vincent, je vais commencer par un aveu, je ne suis pas hyper fière de ça. Parce qu'avant de rencontrer Théo, eh bien, je me suis demandé comment j'allais lui dire bonjour tout simplement, comment il avait pu répondre à mes SMS pour caler le rendez-vous, comment il pouvait se déplacer, porter sa valise. Des questions devenues mais absolument idiotes, complètement idiotes, à la seconde même où on s'est rencontrés. Déjà, on s'est fait la bise, il marche grâce à des prothèses et je comprends très vite qu'il utilise le même téléphone que tout le monde. Théo cuisine aussi, bon, surtout des pâtes, c'est son péché mignon. Il conduit grâce à une voiture spécialement conçue pour lui et surtout, il nage plus vite que moi et vous tous ici réunis, un sport choisi grâce à un homme.
C'est grâce à la rencontre avec Philippe Croizon, l'homme qui a traversé la Manche à la nage en étant amputé comme moi, que je me suis dit finalement pourquoi pas faire comme lui, pourquoi pas sortir de ta zone de confort et te confronter aussi un peu au regard des gens parce que tu seras en maillot de bain et forcément tu pourras plus cacher ton handicap. Ça m'a permis de me sentir bien dans ma peau grâce au sport tout simplement.
Lui qui avait peur de l'eau avant sa quadruple amputation nage de plus en plus vite. À 14 ans, il rejoint le pôle France handisport de natation à Vichy et enchaîne les médailles.
Théo Curin from France. Happy Théo Curin.
Il est d'ailleurs en ce moment à Londres pour les championnats du monde. Objectif, ne pas revenir bredouille.
Combien de médailles, je ne sais pas pour le moment, mais en tout cas, moi, celle qui m'importe le plus, c'est devenir champion du monde, champion paralympique, la médaille d'or.
Sourire magnifique, abdos en acier. Théo Curin collabore désormais avec Biotherm Homme, le numéro 1 mondial du soin masculin. Florent Manaudou et Camille Lacour n'ont qu'à bien se tenir.
On montre le handicap, bien sûr, sur les photos, sur les images, sur les vidéos. Malgré nos différences, on peut faire de belles choses.
Le soleil renaît dans ma Le soleil renaît dans ma vie.
Ce qui m'est arrivé, ça m'a touché moi physiquement, mais ça a touché aussi toute une famille, tout mon entourage, qui ont dû surmonter pas mal de choses aussi. Et du coup, je les remercie.
Notamment sa maman, loin de lui, à Lunéville.
Ce qui m'impressionne chez Théo, c'est sa détermination, sa personnalité forte, son courage. Je suis bluffée, donc il y avait deux choix, ou s'effondrer ou continuer d'avancer. Il a continué d'avancer, c'est même lui qui nous porte en fait. Hein. On n'a pas trop envie d'aller mal, puisque lui, il est super positif.
Et vous savez ce qu'elle va faire, Stéphanie, le 24 septembre prochain, juste après le déjeuner? Regardez la télé, le magazine de la santé sur France 5 avec vous, Marina Carrère-Dancausse. Théo Curin va y présenter sa toute première chronique mensuelle. Il a d'ailleurs un message à vous faire passer, Marina.
Tout simplement, merci à Marina. Je suis très fier de faire mes débuts à la télé avec elle, en tout cas.
C'est formidable, cette histoire. Comment vous avez fait appel à lui? Merci beaucoup, évidemment, à Sophie Orange pour ce reportage.
On avait comme chroniqueur handicap Philippe Croizon, justement, dont il parle. Et Philippe, depuis très longtemps, nous parlait de ce qu'il appelait son mini-moi, qui était Théo Curin. C'est vrai qu'il l'a boosté, il l'a aidé et il l'a poussé vers ce sport, effectivement, auquel il a complètement adhéré. Et puis, quand Philippe a dit qu'il s'arrêtait, notamment parce qu'il va faire un one man show, on s'est dit, mais Théo, évidemment, il faut qu'il vienne, parce qu'il est complètement débordé. Et donc, on a essayé de le faire présenter. Une fois l'émission, c'était le jour où on présentait avec un handicapé, donc il est venu présenter le journal avec moi, et il a fait un carton. Mais un carton partout, dans la régie, sur le plateau, tout le monde.
Je peux vous dire que Sophie Orange est sous le charme, mais il n'y a pas qu'elle.
Il est beau comme un dieu, il est volontaire, il est exceptionnel.
Et ce qui est incroyable, c'est ce que dit sa maman, c'est lui qui nous porte.
Mais je pense qu'il a, cela dit, des parents extrêmement forts, qui l'ont poussé effectivement vers le fait de se construire une vie avec son handicap, j'allais pas dire malgré, mais avec son handicap. Mmh. Et c'est vrai, quand il les remercie, je pense qu'ils ont été extrêmement soutenants, mais c'est un garçon qui est rarissime. Mais quand elle dit effectivement qu'il tape les SMS comme elle, non, beaucoup plus vite qu'elle, beaucoup plus vite que moi, je peux vous dire. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Théo Curin, qu'on suivra évidemment donc sur France 5 dans votre émission Marina Carrère-Dancausse, mais aussi ce week-end pour ces mondiaux de paranatation à Londres. On marque une pause. Et vous savez de qui on va parler ensuite?
De vous. Formidable, tout ce que j'aime.
Le journal inattendu sur RTL, avec Marina Carrère-Dancausse et Vincent Parizeau.
Et ce générique du magazine de la santé que vous présentez, Marina Carrère-Dancausse. Vous êtes donc marraine de la Fondation pour la Recherche Médicale. Mmh. On va en parler, car je sais que ça vous tient à cœur à deux jours de la mobilisation, du début de la mobilisation pour créer une nouvelle dynamique sur la recherche pour Alzheimer. Mais on vient d'entendre ce générique, alors quand même, parlons de l'émission. J'ai envie de dire par le petit bout de la lorgnette. Et méfions-nous, parce que le rire, c'est communicatif.
C'est la maison de retraite des artistes de Couilly-Pont-aux-Dames. C'est un reportage... J'étais sûre. Un reportage... Je suis pas sûre d'arriver. Je suis un peu fatiguée. Peut-être que vous pouvez lancer sans...
Ce colon gonflable est visible jusqu'à demain soir à Paris. Le colon tour se poursuit ensuite à Bordeaux, Toulouse et Lille. Toutes les informations sur le site internet. Vous me tendez la perche, là, quand même.
Bah, c'est vrai qu'on vous a un petit peu tendu la perche. Alors, c'est fou rire le plus souvent avec Michel Simès. Il s'explique par le fait que l'émission est en direct ou pas, d'après vous?
Effectivement, le fait qu'on soit en direct fait qu'il y a des moments où on lâche prise. Et alors, heureusement, honnêtement...
Mais vous lâchez bien prise.
Ah, mais moi, de toute façon, je lâche prise quand je me réveille le matin, donc c'est grave. Hein. Moi, je suis quand même grave. Mes enfants me traitent de folle, mais c'est vrai. Moi, je hurle de rire devant... il y a plein de choses qui me font rire, mais plus c'est bête, plus c'est absurde, et plus ça me fait rire. Ouais. Donc, effectivement... mais l'inconvénient du direct, c'est qu'il faut à un moment se reprendre.
Ouais.
Et heureusement, on a des réalisateurs sympathiques qui, parfois, malgré leur fou rire à eux, arrivaient à balancer le sujet sans que je le lance parce que je pouvais pas.
Alors, dites-nous comment la télé s'est arrivée. Parce que docteur en médecine générale, en santé publique, diplômé en échographie, vous étiez quand même très loin de cet univers. Comment vous êtes retrouvé à faire une chronique santé dans le Disney Club sur TF1?
Ben, tout à fait, en fait, par hasard, parce que j'ai rencontré, en fait, c'est ma rencontre avec Michel Simès il y a... bientôt 28 ans,
ouais.
Qui fait qu'on s'est vraiment, on s'est plus effectivement, on s'est dit on va être amis, on va travailler ensemble, donc ouais. On a commencé par être amis, on commençait un peu à travailler ensemble, et puis voilà, Michel a entendu qu'on cherchait un chroniqueur pour le Disney Club, et il m'a dit mais vas-y, va tenter ta chance, essaye.
Mmh.
Je me suis dit bon, après tout, pourquoi pas. Et là, j'ai été prise et ça a été le début, effectivement, de la télévision.
Et la pratique de la médecine ne vous manque pas? J'ai vu que vous aviez dit, de toute façon, j'étais pas faite pour être médecin.
Non, je suis trop angoissée pour ça. Moi, j'ai toujours eu peur de faire des mauvais diagnostics, donc c'est épouvantable.
Ouais.
Donc, mais en même temps, je fais de la médecine tout le temps, moi. Au magazine de la santé, je fais de la médecine. Je veux dire, je fais de la médecine en tant que journaliste, mais c'est quotidien mon activité de médecin, même si je suis pas face à face avec un patient, je suis face à face avec 800 000 patients, c'est pas mal.
Et puis en plus, évidemment, il y a vos engagements, vous êtes marraine de la Fondation pour la Recherche Médicale, qui, je le disais, se mobilise à partir de lundi pour lever des dons, faire progresser la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Alors, on va en parler de manière très concrète, parce que énormément de familles, évidemment, sont touchées. Pour aider, pour faire un don, c'est très simple, je crois, par SMS.
C'est hyper simple par SMS. On envoie souvenir au 92-300, ou si on veut passer par frm.org.
Oui.
C'est extrêmement simple et c'est vraiment, ça devient de plus en plus indispensable parce qu'on a avancé sur beaucoup de choses, on va le voir avec le professeur Sarrazin,
oui.
Et que comme c'est difficile en ce moment, c'est vrai que les Français sont inquiets pour l'avenir, ils ont du mal à continuer à donner parce qu'ils sont très généreux, mais ils ont du mal à continuer à donner parce que leur vie personnelle n'est pas toujours simple. Mais il y a déjà tellement de recherches qui sont en cours, il ne faut pas qu'elles s'arrêtent. Et des nouvelles recherches qui sont passionnantes, qui vont démarrer, mais il faut des sous pour ça.
Oui.
Et le public ne veut pas donner suffisamment. Donc le fonds privé, le fonds de la FRM, c'est absolument indispensable pour qu'on avance et qu'on arrive un jour à trouver la solution pour cette maladie. Et il n'y a pas 40 solutions, il faut continuer.
Alors, le numéro de téléphone, c'est le 92-300, on envoie un SMS, on envoie le mot souvenir. Au singulier, hein, que ce soit en majuscule ou en minuscule, peu importe, souvenir au singulier, au 92-300, et là, automatiquement, on donne 10 euros, c'est
voilà,
ça?
Voilà, absolument.
C'est réglé sur 10 euros. Si on veut donner 20 euros, on le fait deux fois, par exemple, ou 30 euros, on le fait trois fois.
Voilà, exactement, et si on veut donner beaucoup plus, on passe par la frm.org, il n'y a aucun problème, et tout don est absolument indispensable. Vraiment, les petits dons, s'ils sont multiples, et là, c'est exceptionnel.
Et on va savoir dans quelques minutes pourquoi c'est absolument indispensable. Parce que vous avez invité le professeur Sarrazin qui nous rejoindra après 13 heures, après avoir rappelé l'info et après avoir entendu écouter avec attention Marina Carrère-Dancos dans le rôle de Madame Météo. A tout de suite.
Le journal.
Il est 13h01.
Journal inattendu de Marina Carrère-Dancos.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Une actualité dominée par un arrêté qui fait du bruit et une consultation qui va peut-être calmer les esprits. En tout cas, le gouvernement devrait instaurer une distance minimum entre les cultures sous pesticides et les habitations. Distance entre 5 et 10 mètres selon le type de culture. C'est très loin des 150 mètres réclamés par les défenseurs de l'environnement. Décision ridicule, a commenté tout à l'heure Yann Arthus-Bertrand sur RTL. Mais ce décret sera soumis à consultation en ligne pendant 3 semaines à partir de lundi sur les sites des ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Environnement. En tout cas, pour l'instant, l'entrée en vigueur de ce décret est bien prévue pour le 1er janvier prochain. Encore des milliers de passagers bloqués en Algérie, au Portugal, au Mali notamment. Les avions d'Eglasur sont cloués au sol. La compagnie est en cessation d'activité. Air France, Transavia, Vueling proposent des tarifs spéciaux pour les liaisons avec l'Algérie et le Portugal notamment. Mais attention, les billets ne peuvent pas être achetés sur Internet. La République En Marche réunie en université de rentrée à Bordeaux aujourd'hui. La réplique de la fille de Brigitte Macron après les attaques sexistes venues du Brésil à l'égard de sa mère. Elle lance le hashtag « Balance ton miso » sur Twitter. Une question, est-ce que ce samedi sera marqué par la rentrée, le retour des gilets jaunes ? Réponse dans la journée, Montpellier a été désignée capitale de la mobilisation. Sachez qu'à Paris, les rassemblements sont interdits sur les Champs-Élysées et dans les secteurs de l'Assemblée, de la place Beauvau et de Notre-Dame. Le football, ce soir, France-Albanie en éliminatoire de l'Euro. En tennis, Nadal-Medvedev en finale de l'US Open. Et le meilleur pour la fin, la météo, signée Marina Carrère-Dancos.
Soleil et vent fort près de la Méditerranée cet après-midi, alors que le reste du pays verra passer des nuages et quelques petites pluies désolées assorties d'un net rafraîchissement. Les éclaircies seront toutefois de plus en plus généreuses au fil des heures, excepté sur le flanc est et notamment en montagne, où quelques averses orageuses sont encore attendues. Et les températures seront comprises entre 17 et 29 degrés du nord au sud. Il fera 20 à Paris, Rouen et Belfort. J'ai pas d'autres températures, donc je m'arrête là.
Voilà, et tout ça sans fou rire, mais avec ce sourire dont elle ne se défait jamais. Marina Carrère-Dancos, invitée du journal Inattendu. Tiens, on repart en musique. Ça, c'est un de vos choix musicaux, Marina Carrère-Dancos, Georgia Smith.
Oui, qui m'a fait découvrir ma fille cet été.
Ah oui.
Et je trouve ça absolument superbe. Elle a une voix magnifique. Donc voilà.
Vous échangez beaucoup sur la musique avec vos enfants,
oui, beaucoup,
avec votre fille.
Oui, avec mes fils, ouais. Et ma fille. Ils me font découvrir beaucoup de choses que j'aurais pas découvert sans eux. Et j'adhère à beaucoup de choses.
Bon. Alors il y aura d'autres choix musicaux d'ici 13h30. Je vous propose de vous souvenir. Tenez.
Il vous reste quelques instants pour profiter de notre offre exceptionnelle au rayon M6.
Chaud devant chaud. Un jingle pub pour la 6.
Voilà, voilà. Écran publicitaire d'M6 d'il y a quelques années. Vous avez entendu également le doup-doup-doup d'Antenne 2 à l'époque.
Oui, Antenne 2, oui.
Pourquoi cela ? Tout simplement parce que le 21 septembre, lors de la journée mondiale de la lutte contre la maladie d'Alzheimer, M6, comme les chaînes de France Télévisions, TF1, Canal, vont diffuser leur vieux jingle. C'est quoi ? C'est histoire de nous montrer qu'on a de la chance.
Qu'on a de la chance de se souvenir de ça, qu'effectivement, les 900 000 personnes en France qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer ne peuvent pas se souvenir et qu'on a effectivement de la chance et que donc il faut se battre pour que de moins en moins de personnes soient atteintes par cette maladie. Donc c'est vraiment important et c'est une jolie idée.
Oui. Alors, et puis en plus, y a un peu de nostalgie.
Ben oui,
ça fait toujours plaisir. Vous avez donc décidé d'inviter la professeure Marie Sarrazin, responsable de l'unité de neurologie, de la mémoire et du langage au centre hospitalier de Sainte-Anne. Juste avant de l'accueillir, dites-nous pourquoi elle ?
Parce que d'abord, elle sourit tout le temps.
Ah, ben ça, c'est effectivement, ça vous fait un point commun.
Effectivement, qu'elle est effectivement, je la connais, très attentive avec ses malades et qu'elle est dans un discours qui n'est ni alarmiste, ni gnangnang, j'allais dire. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans le on a ce qu'on a aujourd'hui, on peut faire mieux, travaillons, mais très attentive à ses patients.
Bonjour, professeur Sarrazin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. La maladie d'Alzheimer, c'est 900 000 malades en France, 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, par exemple, à la famille et aux malades d'ailleurs concernés après qu'un diagnostic ait été posé ?
D'abord, c'est déjà bien d'avoir fait la démarche du diagnostic. Tout le monde ne la fait pas. Donc la première chose, c'est que quand quelqu'un est inquiet, soit la famille, soit le patient, il faut consulter. Il y a des bilans qui sont possibles. Et maintenant, on a des outils diagnostiques vraiment précis, hein, dont des outils biologiques. On est amené à faire parfois des ponctions lombaires, par exemple. Hein. Donc on a une amélioration de la qualité du diagnostic qu'on peut faire très tôt. Donc la première chose, c'est déjà bien d'avoir fait un diagnostic.
Donc ensuite, ça veut dire qu'il faut le repérer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre à la légère quelqu'un qui... Pendant quelques secondes, par exemple, on va avoir du mal à se repérer dans l'espace ou va oublier quelque chose, j'allais dire, d'inoubliable.
Oui, c'est toute la difficulté. C'est que quand on dit ben, les patients peuvent avoir des petits oublis, des imprécisions, des sensations de flottement comme ça, évidemment, qui n'est pas concerné ? C'est-à-dire que c'est vraiment
très fréquent,
tout le monde. Bien sûr. Et puis, ça peut être lié à beaucoup, beaucoup de choses, dont la fatigue, enfin, l'anxiété, le stress professionnel ou chez les sujets âgés, le vieillissement en lui-même. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas consulter. D'abord son médecin traitant qui va orienter vers les consultations de spécialité.
Oui, Marina.
Oui, moi ce que j'aimerais bien savoir, parce qu'on aimerait bien aujourd'hui pouvoir traiter cette maladie, on a déjà découvert beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur cette maladie ? Qu'est-ce qu'on a appris ?
On a beaucoup, beaucoup de connaissances. Là, l'enjeu hein, de la recherche est essentiel. Et on a des outils maintenant qui se sont améliorés, dont des outils qui permettent d'aller voir dans le cerveau directement du vivant, du malade. Hein. Avant, on n'avait pas ces outils-là. Donc il y a des outils, par exemple, d'imagerie cérébrale, où on peut aller voir les lésions, les protéines en fait, qui sont responsables de la mort des neurones. On peut aller les voir, donc les localiser, les quantifier, voir leur progression, et cela en suivant le patient.
Et ça permettra, si un jour on a un traitement, de pouvoir justement voir s'il est efficace.
Exactement, d'aller sur la bonne cible et de voir si le traitement est efficace, et puis s'il y a un lien avec les symptômes cliniques.
Quand vous parlez de traitement, expliquez-moi. J'ai toujours entendu dire qu'on ne guérit pas d'Alzheimer, mais qu'on ralentit la progression de la maladie.
Oui, actuellement, les traitements sont déremboursés. Malheureusement, on est le seul pays au monde à avoir pris cette décision, et il y a un recours au Conseil d'État. Ah oui. Donc on attend, on espère que ça va être discuté.
Quelle est la raison ? Parce que ça coûte trop cher ?
Non, c'était générique et peu cher. Maintenant, les prix augmentés, ce qui sont libres. Alors maintenant, c'est à la charge des familles. Non, c'est pour des raisons. Les experts qui ont été à l'HAS ont estimé que le service médical rendu était insuffisant. C'est-à-dire qu'ils estimaient, mais c'est les seuls au monde à avoir eu cette conclusion, c'est que le bénéfice clinique est démontré, qui n'est pas du tout discuté, ne justifie pas le remboursement, le coût, en fait. Hein. Donc, c'est une impression que nous, on conteste, hein, nous, tous les spécialistes, les familles et les malades aussi, bien sûr. Donc, on espère que ça va être discuté. Donc, il y a des traitements symptomatiques. Hein. Faire un diagnostic, c'est rentrer dans une prise en charge. Il y a toute une prise en charge aussi de rééducation avec les orthophonies, ces accueils de jour. Donc, il y a toute une prise en charge qui est proposée. Puis après, pour les traitements de recherche, il y a des avancées. Alors, on a eu beaucoup de déceptions, il faut quand même le dire. On a eu 10 ans là, d'essais thérapeutiques et beaucoup, beaucoup d'argent hein, mis en jeu par les laboratoires, l'industrie pharmaceutique. Et tout est avéré négatif. Tous ces essais n'ont pas permis d'améliorer les malades. Alors, cela dit, ça a apporté beaucoup de connaissances. Donc maintenant, on est en train de resituer ces traitements pour les donner à un autre moment d'évolution de la maladie. Et on a de nouveaux outils hein, qui ciblent sur une autre protéine, en fait. Et là, on a beaucoup d'espoir sur ces nouveaux médicaments.
Vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, je vous demandais si on connaissait les causes de la maladie. Et vous m'expliquiez que finalement, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça la question.
Oui, moi, je pense que c'est une maladie complexe avec plusieurs paramètres qui influent ensemble. Donc, l'enjeu, c'est plutôt de diagnostiquer très tôt. Et on va prendre l'analogie du cancer, dépister très tôt, avant même l'apparition des signes cliniques. Et là, stopper la maladie
et
des traitements spécifiques.
Efficacement.
Exactement. C'est comme ça qu'on comprend l'importance effectivement de la recherche. Il faut que la recherche continue pour qu'on arrive à mettre au point ces traitements.
Et les outils sont coûteux, on a besoin d'argent. Oui.
Et c'est pour ça que la semaine qui s'annonce, à partir du 9, pour vous est très importante.
Exactement, essentiel. Oui.
Et donc, vous aussi, vous incitez tout le monde à faire le 92-300 et à envoyer ce SMS.
Souvenir.
Souvenir, tout simplement. Merci beaucoup, professeur Sarrazin, d'être venu sur RTL. Avant de marquer une pause, on se quitte avec... l'espace de quelques minutes avec un morceau de votre choix, encore une fois, Marina, Nekfeu et Vanessa Paradis.
Et le désir disparaît en même temps que la possession, et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passe seule la nuit sous les traits d'un jeune homme qui, quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Dans l'univers y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
Nekfeu, le rappeur, avec Vanessa Paradis. Ça aussi, c'est votre fille qui vous l'a fait découvrir.
Bravo.
Ah, ben oui. Voilà. Ça marche en famille, la musique. Allez, à tout de suite avec Marina Carrère dans Causse.
dans l'univers, y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
Le journal inattendu de Marina Carrère d'Ancos avec Vincent Parisot sur RTL.
Vous voulez un whisky ?
Ou juste un doigt.
Vous voulez pas un whisky d'abord ?
Voilà, c'est fait. Hein. C'est votre choix, Marina.
Oui.
Un grand classique, La Cité de la Peur, avec Les Nuls et Gérard Darmon. Et cette réplique culte à laquelle forcément on pense lorsqu'on propose un whisky à une dame, qu'on a l'esprit un peu mal tourné. Vous buvez du whisky ?
Pas du tout. J'aime pas ça du tout.
Bon, je vous demandais ça parce que Cédric Clapiche, qui était ici même à votre place samedi dernier, a cette question pour vous.
Bonjour Marina Carrère d'Ancos. Alors comme je sais que vous vous occupez de santé, et je voulais vous poser une question que j'ai envie de poser à tous les gens qui s'occupent de santé en fait. C'est est-ce que vous mangez des choses particulières ou est-ce que vous avez un train de vie particulier parce que vous savez ce qui peut se passer dans votre corps et dans votre santé. Voilà, c'était ça la question que je voulais vous poser.
Voilà, donc est-ce que le fait d'être est-ce que vous mangez des super aliments ? On parle de super aliments.
Très honnêtement, je mange ce qui me fait plaisir. Je suis assez pour ça assez mauvaise élève.
Ouais.
Non, je fais attention, c'est-à-dire que je mange pas du pâté à tous les repas, bien sûr, mais je profite plutôt de l'existence. Je trouve qu'elle est courte et qu'il faut en profiter. Donc je me fais plaisir avec l'alimentation et je pense qu'en plus on est plutôt en bonne santé quand on mange. Avec plaisir.
On entend ici régulièrement votre ex-co-présentateur Michel Simès qui nous dit faut faire du sport.
Oui, non, mais il est malade du sport, lui.
Ah oui, c'est ça.
Non, mais trop de sport, c'est pas non plus bon. Hein.
Ouais.
Je dirais pas toutes les pathologies qu'a Michel, mais il s'est pas arrangé avec le sport. Hein.
En tout cas, si j'ai bien compris, vous êtes médecin, mais ça ne change pas grand-chose à votre alimentation ou à votre style de vie.
C'est-à-dire que je pense qu'avec le temps, les goûts changent, donc on peut modifier son alimentation simplement à cause de du temps qui passe. Mais je me dis jamais, oh là là, ce plat-là, c'est pas bon pour la santé, je le mange pas. Ça, il est hors de question.
On va parler quand même d'un événement qui a peut-être modifié justement votre manière de voir la vie, de peut-être aussi de voir les autres. C'est cet accident de voiture avec votre père lorsque vous aviez 21 ans, dans lequel vous auriez pu y rester. Ça a changé votre regard sur le monde, sur le boulot, par exemple aussi.
Ça a tout changé, simplement parce que effectivement, ça a duré assez longtemps. On ne savait pas si on allait me sauver ou pas. Ça a quand même été relativement long. Et quand on est si jeune et qu'on se dit qu'on peut mourir, ça change ensuite absolument tout. C'est-à-dire, d'abord, je me sens assez en sursis depuis.
Ouais.
Je me dis, voilà, chaque jour où je me lève et que je croise quelqu'un qui me sourit, je dis, mon Dieu, quelle chance j'ai de vivre. Et donc, j'essaye un peu de rendre un peu tout ça, parce que c'est quand même une chance qu'on m'ait sauvé et c'est grâce vraiment à la médecine. Donc, je ne peux que le dire. Mais c'est vrai que ça change. Ça rend exigeant en même temps. Et ça rend exigeant également professionnellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses à moitié. Une fois qu'on a vécu ce genre de choses, enfin moi c'est comme ça que je le vis. Mais en revanche, on a un appétit et une envie de vivre assez exceptionnel.
Et un regard sur soi-même qui est en revanche assez étonnant pour quelqu'un qui fait de la télé. Vous dites finalement je me déteste,
Ah, je me déteste depuis que je suis née, je me déteste. Donc ça va pas changer, ça s'améliore pas beaucoup. Hein. Disons je deviens un peu plus indulgente avec l'âge.
Alors on va marquer une petite pause et puis se préparer à une surprise. Avant cela, un énorme coup de cœur, c'est Gérard Depardieu.
C'est ma plus belle émotion de l'année dernière, ma plus belle. Je sais pas, on en a pas assez parlé, mais cet homme qui est quand même une sorte de monstre aussi bien cinématographique, il a un corps hallucinant, tout. Et il sort avec une voix douce, d'une émotion inimaginable, son spectacle dédié à Barbara. J'ai rarement autant eu la chair de poule pendant une heure et demie. J'aurais voulu à la fin aller l'embrasser et lui dire merci.
J'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau m'aimer que toi. J'ai beau t'aimer d'amour, si tu ne comprends pas qu'il faut revenir. Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je comprendrai ma route, le monde me merveille. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Thank you.
impossible de couper, évidemment.
Quelle douceur.
Et on a des frissons dans ce journal inattendu de Marina Carrère d'Encausse que l'on retrouve dans un instant.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Marina Carrère d'Encausse et Vincent Parisot.
Didier, tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. C'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. D'accord ?
Oui.
Bah ouais, mais... Je suis connu, moi, dans le quartier.
Hein. Bah oui, il est connu dans le quartier. Alors, je tiens à préciser, encore une fois, que c'est votre choix, Marina.
Mais oui, j'assume parfaitement.
Extrait de Didier d'Alain Chabat. Tout à l'heure, c'était La Cité de la Peur. Vous êtes très cliente de l'univers, de l'humour des nuls.
Très, très. Et Chabat me fait hurler de rire.
J'aimerais qu'on s'arrête un instant, quand même, sur votre nom, sur votre famille, sur votre histoire. Alors, que tout le monde connaît, j'allais dire, depuis la fin des années 70, par votre mère, Hélène Carrère d'Encausse, académicienne, secrétaire perpétuelle de l'Académie française.
Et mère formidable.
Et mère formidable.
Absolument. Et grand-mère formidable.
Qui a eu trois enfants, une sœur avocate, vous avez une sœur avocate, et puis un frère écrivain, bien sûr, Emmanuel Carrère. Vous avez baigné dans la littérature ?
On a baigné dans la politique d'abord, avant tout. Effectivement, il y avait des dissidents qui venaient, dissidents russes qui venaient dîner à la maison. Il y avait beaucoup de, on parlait beaucoup politique. Enfin, nous, on écoutait. On avait le droit d'être tout le temps là, mais on devait se taire. Donc, on a beaucoup parlé politique et littérature, oui aussi, bien sûr. Et c'était une éducation assez libre, honnêtement. Ma mère était une drôle de mère. On avait le droit de pas aller à l'école. On avait le droit de pas aller à l'école. D'ailleurs, non, c'est elle qui nous incitait à pas aller à l'école.
Trop bien.
Parce qu'elle voulait, bien sûr, trop bien. Parce que, dans ce cas-là, elle nous servait le petit déjeuner au lit et elle nous faisait des mots d'absence absolument surréalistes. Ouais. Mais on devait passer d'une année sur l'autre.
Ah
c'est
oui, ce qu'on a fait. C'était la condition.
Voilà. Mais c'était une éducation très libre et très intéressante.
Dans la culture slave, il y a quelque chose de slave en vous?
Oui. La nostalgie, je crois.
Ouais. Bien sûr, ça c'est très slave. Et vous avez écrit deux romans. Oui. Une femme blessée, c'est sur un crime d'honneur au Kurdistan irakien. Et puis Une femme entre deux mondes, sur le secret, la résilience. Quand on a une mère académicienne et un frère comme le vôtre, Emmanuel Carrère, écrire c'est quoi ? C'est logique ?
C'est pété de trouille.
C'est pour dire moi aussi ?
Non, c'est quelque chose que j'écris depuis que je suis petite. J'ai toujours écrit plein de débuts de romans. Ouais. J'ai toujours voulu écrire, juste c'était infernal. Quoi. C'est, surtout avec mon frère qui est quand même un romancier exceptionnel. Ouais. Et donc j'ai attendu, puis un jour je me suis dit si j'écris pas maintenant, j'écrirai jamais.
Donc il y a eu deux romans, il y en aura un troisième ?
Il y aura un polar.
Pour quand ?
Normalement, il sortira pour le Quai du Polar, c'est-à-dire en mars.
Ah bah voilà, c'est noté. Ouais. Rendez-vous est pris avec le prochain roman, Un Polar. Ça, c'est bien noté. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. Oui. On a un invité surprise en ligne. Vous avez une petite idée ?
C'est pas Michel.
Ah non, ça aurait été... Alors je vais vous dire, ça aurait été trop facile. Ça aurait été trop évident d'appeler notre ami Michel Simès.
Non.
Bonjour Gérard Collard.
Bonjour.
Alors chroniqueur littéraire, libraire à la Griffe Noire, évidemment, à sa mort défaussée, sans doute le plus connu des libraires. Pour que les auditeurs qui ne connaissent pas son nom voient bien qui il est, c'est le look décalé, tendance Tintin, grosse lunette et houppette. Vous êtes amis depuis longtemps.
Ça fait 25 ans qu'on est amis.
Gérard Collard, tiens, avant de vous donner la parole, on écoute un extrait d'une chronique que vous aviez fait sur le deuxième roman de Marina. Non, alors on ne l'écoute pas parce que elle n'est pas prête, c'est de ma faute. Mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire de Marina, et est-ce que vous êtes content qu'elle fasse un troisième roman qui soit un polar ?
Moi, j'aime bien que les gens assument leur passion, donc j'ai un peu je l'ai aidée à assumer, c'est-à-dire qu'elle avait toujours eu envie d'écrire, et puis elle avait un peu de réticence en se disant est-ce que je suis capable, pas capable et tout. Et puis je suis très content parce que ça a été une très belle réussite. Elle est mieux dans sa peau depuis qu'elle écrit, et que voilà, ça lui donne encore plus de richesse à ce qu'elle est.
Vous la trouvez mieux dans sa peau depuis qu'elle écrit ? Ça, c'est intéressant, ça.
Ah oui, absolument. Elle s'assume, elle peut dire des choses à travers ses romans qu'elle disait pas forcément. Parce que c'est pas forcément, elle est pas très expansive sur l'intime, donc là ça lui permet de faire passer plein de choses qu'elle n'aurait pas dit en public, même à ses plus intimes.
Comment elle est Marina en privé
Chiante. Non, c'est un peu comme ma sœur, donc elle est là quand il faut. Je suis un peu chiant, mais elle est très très. Elle est très prévenante, très avec ses amis. Elle a beaucoup le culte de l'amitié, donc elle est vraiment avec tous les gens qu'elle aime. Elle est vraiment très très cautionneuse. Elle fait tout ce qu'elle peut pour que les gens soient heureux.
Et alors vous, Gérard Collard, vous faites donc cette chronique littéraire dans le magazine de la santé. On se demande d'ailleurs pourquoi est-ce que lire c'est bon pour la santé ? Marina. Attendez, Marina d'abord.
Ah, ça c'est sûr que lire c'est bon pour la santé, ça fait rêver, ça fait rire, ça fait voyager. Bien sûr que c'est bon pour la santé.
Ouais.
Oui, puis ça vous ouvre sur les autres, hein, surtout. Hein. Ça veut dire que ça vous oublie, ça vous empêche de penser qu'à vous, à vos petits mots, à vos petits. Voilà, et puis ça vous dit bah, que ça vous fait dire que les autres, ils existent aussi, et puis que vos petits problèmes, c'est peut-être pas les plus importants.
Une amitié très forte, j'ai l'impression,
ouais.
entre vous
oui,
deux.
Oui, oui, effectivement, quand il dit que je suis comme sa sœur, c'est vrai, effectivement. Ouais. C'est une amitié très forte, très essentielle, en fait. Et qui continue avec mes enfants. C'est vrai que c'est lui qui a fait lire mes enfants en leur donnant le goût de la lecture. Et oui, on est assez essentiels l'un à l'autre, je crois. C'est très joli.
Merci beaucoup, en tout cas, de ce petit coup de fil clin d'œil. Vous étiez à la librairie, là, à la Griffoire.
Ah, oui, bien sûr, oui, ouais. Bien sûr. Oui.
Merci beaucoup de ce coup de fil sur RTL dans le journal inattendu. À bientôt. J'imagine que vous allez vous voir très vite.
Oui, et si je peux défendre sa cause, allez acheter vos livres chez votre libraire de quartier.
Eh ben voilà, ça c'est dit clairement. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir, Marina Carrère-Dancos.
Merci à vous.
On rappelle évidemment le rendez-vous et voilà. Le téléphone.
Voilà, absolument. On envoie par SMS souvenir au 92 300 et on donne 10 euros. Ou bien on va sur frm.org et on donne de l'argent pour la recherche à la maladie d'Alzheimer. C'est important pour les patients et pour leurs proches.
Voilà, et avec nous, pour nous quitter, votre choix, Charles Aznavour,
ah, oui,
la bohème.
Oui.
On était fous, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Merci beaucoup Marina Carrère d'Encausse. La semaine prochaine,
merci,
c'est Dave qui sera à votre place. Et dans un instant sur RTL, Jean-Alphonse Richard confidentiel consacré aujourd'hui à Madame Claude.
h 30, 13h30 sur RTL.
Le journal inattendu.